R22, tout mon
R22, antenne, tout mon
Radio Brouhaha.
Merci Jean-Max, je rougis de ces belles paroles et nous sommes des compagnons fidèles l'un à l'autre. Donc Radio Brouhaha revient pour la troisième année consécutive ici même. Alors nous, on n'est pas difficile dans Radio Brouhaha. Pendant 2 ans, le sous-titre c'était la littérature hors du livre, donc on a interrogé la littérature hors du livre. Cette année, c'est la littérature vivante, donc on aura une seule question, c'est quoi exactement la littérature vivante ? Pas difficile non plus quand on nous a dit, quand on a, vous êtes upgradé, vous passez de 3 à 5 émissions. On a dit top là, on y va, on fait 5 émissions. Mais du coup, on s'est professionnalisé un petit peu, on est devenu une radio un peu comme les autres. On a créé un dispositif maintenant qui sera répété tous les soirs, un dispositif moins bordélique, disons, que les années précédentes. On aura 2 invités par soir qui sont à ma droite et à ma gauche. Un premier invité ou une première invitée, en l'occurrence, qui nous aide à penser la littérature, les cultures littéraires, comme le disait Jean-Max, que ce soit celle d'aujourd'hui ou du passé. Et chaque soir, on aura un ou une jeune auteur qui est si vivant qu'il vient de naître comme auteur en publiant son premier livre à la rentrée. Et chacun et chacune de ces nouveaux auteurs sortent d'un lieu qui, je ne sais pas s'il est vivant, mais qui est au moins un lieu relationnel et sociable, qui est un master de création littéraire. Donc ce soir, notre premier invité, ce sera Yankuba Diémé, qui vient de faire paraître Boy Diola chez Flammarion et qui a suivi le master de création littéraire il y a quelques années déjà. On en reparlera. Et à ma droite, je suis vraiment très heureux d'accueillir ce soir Florence Dupont, d'autant plus heureux que c'est la troisième fois qu'on l'invite. Dès la première année, on souhaitait l'avoir avec nous, et pour des raisons de calendrier, ça ne s'était pas fait. Mais voilà, elle est là, et c'est vrai que j'aime bien pour ces émissions me faire un peu plaisir et inviter des personnes qui ont compté dans mon parcours de lecteur, enfin des livres, pour le coup, qui ont compté dans mon parcours de lecteur, comme avec Roger Chartier il y a 2 ans, avec Alain Viala et Alain Vaillant. Florence Dupont a écrit ce livre absolument superbe, je dirais, et passionnant, qui s'appelle « L'invention de la littérature, de l'ivresse grecque au texte latin ». Alors, c'était il y a déjà longtemps. Elle est latiniste, anthropologue de la littérature, je dirais quelque chose comme ça. Voilà, on peut le dire comme ça. Et dans ce livre, elle nous parle finalement de ces formes qu'on a presque du mal à appeler littéraire, qui précède la constitution d'une idéologie de la littérature. Donc c'est de cela qu'on voulait parler avec elle, parce que ses formes sont très vivantes. Et en relisant ce livre, j'ai eu envie de commencer par faire un renvoi à un de nos invités de samedi prochain, qui s'appelle Dede Cabal. On va commencer avec lui, et puis on revient avec Florence Dupont.
Oresti, opéra hip-hop. Du 7 au 13 mars 2018, à la MC 93, Bobigny. Yeah. Ça fait.
Je me suis barré des réseaux sociaux, fatigué de faire mon autopromo. Je fais pas de la com, je fais des morceaux. Musique libérée comme cheveux afro. Si je te parle aujourd'hui, c'est pour dire que toi et nous, on se fixe rendez-vous. On a choisi d'écrire pour s'en sortir. Prose poétique pour rendre des coups. Laisse-moi te parler de la Grèce antique. Quand des poètes se clashaient en battle, pas des albums, des tragédies, de plusieurs heures qui se jouaient pour le peuple, parfois 4 heures, parfois 8 heures, des juges déclaraient qu'était le vainqueur, et je m'attaque bien au meilleur, et Gilles dans sa tombe tremble de peur. 2018, on écrit la suite, le reste est mis à mal à Bobigny, on a pris Gilles, on l'a retraduit, puis ajouté du rap et des épices, et on arrive, opéra hip-hop, du jamais vu dans ce fucking hexagone, pas d'instrument, tout dans la gloss, beatbox, théâtre, on est hors zone, yeah! Oresti, Oresti, opéra hip-hop. Oresti, Oresti, opéra hip-hop. Oresti, 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 Oresti.
Alors là, tu pourras pas dire que tu savais pas. Ok.
Alors, si vous voulez entendre Dede Cabal, ça sera samedi soir. Et si j'ai voulu commencer par ça, je me permets de vous citer un tout petit peu Florence Dupont. C'est la fin, les dernières lignes de l'avenir de la littérature. Vous écrivez ceci. L'avenir est sûrement au recyclage de l'écrit, sa transformation en énergie vive. Comme Rome recyclait les monuments culturels conservés par la culture alexandrine par le jeu de la traduction et du théâtre, notre culture postmoderne, on est dans les années 90, hein, je crois, à ce moment-là, pourrait bien, de la même façon, reprendre tous les chefs-d'œuvre de la littérature, comme on le voit faire aujourd'hui dans l'Afrique francophone, pour les réinvestir dans la musique, la danse, le rap. Et en réfléchissant à vous deux, Dede Cabal et vous, je trouvais que ces deux moments coïncidaient. Le travail de Dede Cabal sur Oresti. Alors c'est très optimiste ce que vous dites à ce moment-là, et j'apprécie cette chose-là. Est-ce que vous avez trouvé que par la suite, des formes qui réinvestissaient cette culture antique pour les faire revivre?
Je ne sais pas. C'est-à-dire, en fait, j'écris puis j'oublie ce que j'ai écrit. Bon, donc,
heureusement, on est là pour vous lire.
Oui, peut-être. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours optimiste, mais... Pour ce qui est de la créativité, oui, optimiste, bien sûr. Hein, mais je pense que la culture classique a encore beaucoup besoin d'être secouée. Et on voit bien que lorsque certains le font, ça passe mal. Je voulais juste parler, par exemple, de la mise en scène que Thomas Joly a fait à Avignon du Tieste de Sénèque, hein, et où justement il a utilisé le hip-hop, etc., et où les gens étaient scandalisés. Et je dois dire que c'est... excuse-moi de dire ça, mais c'est surtout la gauche qui est scandalisée. Hein. Ce que dit Sénèque, alors sur la politique, etc. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut continuer à secouer. Et c'est effectivement, ce sont les metteurs en scène, les créateurs contemporains qui peuvent le faire, à condition de ne pas se laisser impressionner par, entre guillemets, les grands textes.
Hein. Et vous en aviez pensé quoi? Vous l'aviez vu, cette mise en scène?
Ah ben, c'est moi qui ai traduit. Voilà. Il m'a demandé mon avis, etc. Et pour une fois, hein, il a eu l'audace de se moquer éperdument du sens du texte, hein, et de faire uniquement du spectacle. Et je dois dire que moi, j'ai trouvé ça génial. Hein, mais c'est vrai qu'il a mis le paquet. Il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait les enfants qui chantaient. Tantôt c'était émouvant, tantôt c'était drôle. Et lui-même est un acteur extraordinaire, parce que c'est vrai que tout ça demande des qualités de création qui sont vraiment, difficiles à trouver aujourd'hui.
Alors, je voudrais qu'on évacue directement un premier problème sur ce festival, qui est un festival de la littérature vivante. Lorsqu'on lit votre livre, L'invention de la littérature, vous parlez de l'antiquité grecque et latine, alors bon, peut-être il y a d'autres termes pour définir ça, mais enfin de ces périodes-là, c'est presque un pléonasme. La littérature ne peut pas être vivante.
Non, mais elle n'est pas faite pour ça. C'est vrai que, de toute façon, la notion de littérature, elle est récente. Hein. Elle date du 19e siècle. On ne sait pas ce que c'est. On passe son temps à la définir, mais au fond, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est une institution sociale. Hein. Tout le monde sait comment on fait un livre, comment on l'édite, comment on le vend, comment on le lit. Bon, on peut aimer ou pas aimer. Mais en tout cas, ce n'est pas exportable. Hein. Ce n'est pas plus exportable au 17e qu'au 16e, qu'au Moyen-Âge. Donc, en fait, parce que souvent, j'ai des amis qui travaillent dans d'autres siècles qui me disent « Mais de toute façon, tout ce que tu dis sur l'Antiquité, c'est vrai pour nous aussi. » Ben oui, tant mieux. Hein, voilà. Bon, alors, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ces textes conservés sous le nom de lettres, hein, dans l'Antiquité, bon, ils ont plusieurs fonctions. Et une des fonctions de la... Alors, je vais dire littérature, étant entendu que ce n'est pas la littérature au sens moderne, hein, ils ont pour fonction de fixer la langue. Donc, il y a tout un côté, ce qu'on vous sert comme grand texte aujourd'hui, en fait, ce n'était pas pour le contenu, mais c'est parce que ça servait à fixer la langue. Hein. Donc, les enfants lisaient ça, etc., les orateurs et tout. Mais ils avaient d'autres fonctions aussi, et qui pouvaient être ceux du plaisir. Mais donc, en réalité, en dehors de ça, il y avait une extraordinaire productivité dont on n'a pas forcément gardé trace, puisque c'était pas fait pour. Hein. C'était quand même des gens qui vivaient non seulement dans l'oralité, mais dans le partage des plaisirs de l'oralité. Hein. C'est-à-dire que bien parler... savoir jouer avec la langue, c'était un plaisir qu'on prenait pour soi et qu'on offrait aux autres. Alors ça, évidemment, on est loin de la littérature au sens moderne du terme, des livres et tout ça.
Mais alors, donc, ces scènes que vous décrivez, ces formes, qui sont plus que des formes, qui sont des formes de vie, pratiquement, vous parlez du symposium, de la commissatio et du conte. Hein, vous prenez ces trois exemples dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'elles font? Si ce n'est pas de la littérature, quelle est leur fonction qu'est-ce qu'elles produisent, au fond?
Non, mais de toute façon, c'est des fonctions sociales, n'est-ce pas? Hein, je veux dire, le symposium, on boit ensemble. Et sans vin, il n'y a pas de symposium. Hein, et sans relation érotique, avec des garçons ou des jeunes femmes, il n'y a pas de symposium non plus. Donc en fait, donc c'est ce modèle du symposium, du plaisir collectif, mais qui est un plaisir très maîtrisé, qui est un plaisir esthétique. On ne peut pas avoir un type moche. En fait. Il faut les jolis garçons, le bon vin, la belle poésie, musicien, musicienne. Et tout ça doit s'accorder ensemble. Et chacun doit... Alors, en plus, il faut être quand même bien formé pour le réussir. Bon, c'est un peu élitiste. Il faut être quand même cultivé. Et comme on dit en grec, pépaï de ménoï, c'est-à-dire qu'on a fait... Mais tout ce qu'on a appris... On ne va pas le resservir comme quelqu'un d'érudit. Ça va servir à être bien ensemble et aller le plus loin possible dans le plaisir, un plaisir qui est aussi bien l'ivresse du vin, l'ivresse du désir, l'ivresse de la beauté des paroles. Et, alors, il faut bien le maîtriser. Hein. C'est toute une technique. C'est à la fois un plaisir et une technique. Parce que si on n'a pas la technique, alors on se casse la figure. Exemple de cassage de figure, on est saoul et on tombe par terre, on vomit et on est comme une bête, je fais que citer, ou on viole son voisin et sa voisine, ça ne se fait pas, et voilà, donc où on se met à raconter des histoires sans intérêt. Voilà, ça c'est ça qu'on pourrait appeler, alors, si c'est la littérature vivante, je veux bien, mais je veux dire, il ne faut pas oublier Eros, Dionysos et les muses.
Et donc c'est ce que vous décrivez comme, alors sûrement en étant inspiré par les travaux de Lévi-Strauss, comme une culture chaude face à une culture froide, une culture de l'événement contre une culture du monument. Et vous distinguez plusieurs monuments, parmi eux, pour toujours évacuer les problèmes qui se posent ici, le livre, mais aussi ce qui contient le livre, les bibliothèques, ou alors les musées, qui sont des lieux, qui sont des conservatoires, qui ne sont incapables de retranscrire la force de l'événement.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette fonction-là. Le petit jeune homme qui va chanter dans le banquet, il a été Pépaï de Ménos. C'est-à-dire qu'en fait, il a appris à l'école, il a même appris par cœur toutes sortes de poèmes. Il sait lire, il a appris la musique et tout ça. Mais il ne va pas faire de citations. C'est-à-dire qu'en fait, il est formé pour être capable... au moins de citer un vers, mais là c'est un peu médiocre, ou même lui-même d'improviser sur le modèle de ce qu'il sait par cœur. C'est-à-dire que plus on sait par cœur, plus on est capable d'improviser. Et la fonction des livres n'est pas la nôtre. Parce qu'on voit sur des vases, petit garçon, qui a un texte devant lui, puis il y a le prof, et puis il est en train d'apprendre. D'ailleurs, c'est un poème de Sappho, je crois. Non, d'Anacreon, je crois. Ouais. Non, parce que je demande à un vrai helléniste qui est là. Voilà. Donc, en fait,
le
c'est ça.
Le poème de Cléobule. C'est Cléobule.
Alors, non, mais ça, c'est Cléobule. Ça, c'est un poème d'Anacreon. Non, mais je parlais d'un vase. On voit bien comment les choses circulent et se recréent sans cesse. Voilà. Et si on n'est pas capable de le faire, alors là, on est un rusticus, un type sans éducation, pas drôle, qu'on n'invite pas, et voilà. Ça fait partie de la sociabilité.
Et même j'ai été étonné aussi en vous lisant, puisque au fond, ce livre déconstruit toute une idéologie sur la littérature. Et votre travail consiste à déconstruire une idéologie que je qualifierais de moderne, au fond, sur la littérature, qui est bibliocentrée, centrée sur le livre et centrée sur une institution qui est aussi une idéologie. Mais il y a aussi quelque chose que vous déconstruisez, c'est la culture des festivals et des festivals dramatiques, théâtraux, qui sont, si je vous ai bien compris, au moment du panhellénisme, une manière politique d'affadir, de faire perdre son énergie aux cultures théâtrales locales.
Bon, je dirais pas ça, je dirais plus ça. Hein.
Là, vous direz plus ça.
Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le théâtre ou les, on dit le théâtre, mais c'est un peu réducteur parce que c'est, en fait, il y a des concours de poésie, des concours de chant, des concours gymniques et même des concours de baisers dans certains endroits. Donc je dis ça parce que c'est un peu d'atmosphère quand même. Non, mais c'est vrai. Donc et tout ça est en concours. Donc ces concours créent des moments et des espaces de rencontre. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on prend des fêtes panhelléniques comme les Jeux Olympiques, il y avait effectivement... Alors, si j'ai dit que ça affadissait les choses, j'ai sûrement tort, là, parce que je n'ai aucune preuve, hein, donc il faut retirer tout ça.
Non, mais c'est peut-être pas ce que vous avez dit, c'est la manière dont je
l'interprète. Non, mais j'ai pu dire... Non, mais attendez, heureusement, on change d'avis, parce que sinon... Voilà, donc il y a ça...
Parlez bien dans le micro.
Ah oui, d'accord, il y a ça. Et bon, il faut à chaque fois voir d'un peu plus près, parce qu'on s'aperçoit aussi que la culture du ce que nous appelons la culture du théâtre s'est répandue un peu partout, elle a été reprise, changée, et on manque quand même beaucoup de documents. Alors, tout le monde me dit, alors, comment ça se passait, etc., comme si j'étais en communication directe avec l'Antiquité. Bon, c'est vrai que... la culture du théâtre, qui est une culture en particulier, enfin, au moins la tragédie, qui est une culture dans la lignée démocratique d'Athènes, est différente de la culture de symposium. Elle est aussi différente du théâtre des cités oligarchiques, qui est un théâtre de la satire. Enfin, bon, en tout cas, c'est vrai, si vous voulez, ce que je dirais pour essayer de rassembler tout ça, hein, c'est qu'il y a... Des arts de la parole orale, de la parole musicalisée, qui rassemble les gens, avec quelque chose en plus aussi, c'est que ça rassemble autour d'une aussi autour du deuil. C'est-à-dire qu'en fait, le deuil est souvent l'occasion de grandes fêtes musicales. On pleure ensemble. Alors, rien de tel, comme vous savez, le deuil collectif. Hein, ça rassemble les gens sur n'importe quoi. Hein. Bon, vous faites une marche blanche, vous êtes toujours suivi. Bon, là, c'est un peu plus amusant, mais dans la mesure où c'est musical. Hein. Donc, vous avez, les gens viennent pleurer ensemble sur des gens qui n'existent pas. Hein, c'est formidable, on pleure sur Édipe, dont on sait toujours que c'est une fiction. Donc on pleure ensemble, il n'y a pas de conflit, c'est consensuel, la musique est sublime, et on pleure encore mieux si la musique est belle.
Mais alors, vous n'êtes pas en communication directe avec l'Antiquité, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous êtes mise en relation avec une culture plus contemporaine, en tout cas moins ancienne, pour essayer de retrouver des éléments modélisants. Alors dans ce livre-là, c'est le flamenco. Vous parlez beaucoup du flamenco, comme si dans le flamenco, on pouvait trouver en moins ample historiquement ce passage d'une culture de l'ivresse ou d'une culture locale, très locale, événementielle, à une culture qui se normalise.
Oui, j'ai fait ça parce qu'il y avait, à Paris 7, il y avait un ami qui travaillait sur flamenco. Je connaissais une femme qui avait fait une thèse très intéressante sur flamenco. Donc, vous savez, on pique tout à tout le monde. Hein, je veux dire. Bon, alors, et les autres ne sont pas contents parce qu'on est trop rapide. Oui, c'est-à-dire que j'aimais... Ce n'était pas pour dire c'est comme ça, mais j'aimais sentir par moi-même des choses dont je pensais que c'était comparable. Hein. Et comme je... Bon, je ne vous cache pas, je n'aime pas du tout la littérature. Donc, je ne lis pas, ça m'ennuie. Voilà. Donc... Mais en revanche, j'aime bien ce genre de fêtes collectives, hein, même si je ne suis pas dupe de leur caractère souvent un peu touristique, hein, y compris flamenco. Mais voilà, c'est comme... voilà, c'est ça. Donc, il y a ça, mais depuis que j'avais fait ce livre, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle des ethnopoéticiens, c'est-à-dire, en fait, c'était des étudiants, d'ailleurs, beaucoup étaient à Nanterre, hein, qui ont travaillé sur des... Alors, on dit culture traditionnelle, mais j'aime pas ça, parce que ça a l'air de dire, voilà, ça n'a rien à voir avec la modernité. Non, des cultures contemporaines, hein, non-européennes, hein, et qui, là, vous apportent énormément. Là, on se dit, mais je suis en train de découvrir l'Amérique, ça existe... à quelques milliers de kilomètres, même pas.
Ah oui, mais ça, de toute façon, ce que vous dites sur la fête, on peut le retrouver dans d'autres cultures occidentales, contemporaines. Moi, j'ai pensé en vous lisant au mouvement des rave parties dans les années 90, de cet ordre-là. Évidemment, c'est tout à fait différent, mais on peut faire ce rassemblement. Sur la question de vous aborder dans la dernière partie du livre, cette Rome qui serait une société où le livre se développe sans lecteur. Mais alors, pourquoi le livre se développe ?
Non, mais en Grèce hellénistique aussi. Enfin, là, j'étais aussi un tout petit peu... Ben, j'avais pas assez travaillé encore. Mais si on écrit que lorsqu'on a beaucoup travaillé, on n'écrit pas. Alors, donc, à un moment où il faut savoir se sacrifier, comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... bon, il y a eu un grand développement de la culture du livre dans la Grèce qu'on dit hellénistique, c'est-à-dire en particulier Alexandrie, tout le monde connaît ça. Bon. Mais ce qu'on surprend à Rome, c'est qu'il n'y a aucune tradition de ce que les Anglais ou les Américains appellent « song culture ». Il n'y a rien. Les Romains, ils n'ont jamais... Enfin, on n'a aucune trace de gens qui ont chanté ensemble. Ce n'était pas leur truc. En revanche, très tôt, il y a eu le modèle grec qui a été repris, travaillé, comme tel, introduit. Et donc, à ce moment-là, il y a eu ça à Rome. Mais c'est vrai qu'il y a une culture du livre, mais qui n'est pas une culture de la littérature au sens où nous l'entendons. Il n'y a pas de tradition de chant. À Rome, c'est comme ça. On peut être triste, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de tradition de chant. Il n'y a de tradition de chant que grecque. Enfin, cela dit, il y en a plein. Et voilà, donc ça fait un système assez différent. Et puis ce qu'il y a, c'est que en fait, avec l'histoire, la langue latine a peu à peu été explorée et est devenue ce qu'on peut appeler un autre grec. Et ça, c'est une autre histoire, c'est-à-dire en particulier dans le théâtre, mais disons que c'est à partir de l'époque, le premier siècle avant Jésus-Christ, la fin de la République et l'époque d'Augustéenne. À ce moment-là, il y a eu. Tout arrive, hein. Je veux dire, on peut créer des traditions, comme vous savez. Et donc, il y a eu la création d'une poésie chantée romaine, parce que Horace a été connu aussi pour faire de la musique, pour chanter. Et en fait, il n'y a pas de poésie antique sans musique. Mais disons que c'est tardif et que c'est un travail très intéressant à suivre, mais qui est d'abord assez mal connu, et puis qui n'est pas aussi séduisant que peut-être le symposium, qui effectivement... fait envie à tout le monde, y compris aux Romains.
Et alors, en relisant le livre, je me suis demandé finalement pourquoi vous l'aviez appelé l'invention de la littérature. Parce que finalement, de littérature, il n'en est pas tellement question. Il est question de toute autre chose. Que vous appelez l'invention de la littérature?
C'est nous, c'est-à-dire les contemporains qui avons inventé cette notion de littérature.
D'accord.
Et qu'on a projeté sur l'Antiquité, avec cette grande chose qui est l'histoire de la littérature qui commence, comme vous savez, de l'Antiquité à nos jours, selon cet admirable principe qui fait que tout se suivrait comme ça à la queue leu-leu. Et voilà. Donc en fait, cette invention, la littérature est quelque chose qui fait qu'on croit maîtriser un objet dans le temps. Mais en fait, c'est absolument pas vrai. C'est juste une fiction. Voilà.
Mais est-ce que vous pensez du reste, parce que ça, alors c'est vraiment une question que je me pose en tant que chercheur. Généralement, je réponds toujours non, en me disant est-ce qu'il y a une continuité ou en tout cas est-ce qu'il y a quelque chose de commun, disons, entre ces formes ritualisées. Ces formes ritualisées comme le symposium ou d'autres, et par exemple ce qu'on fait ici. Et est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces formes lyriques, narratives, alors qui ne sont pas tout à fait lyriques d'ailleurs, mais qui sont ces sociabilités et les sociabilités littéraires qui ont continué à exister au cours de l'histoire? Ou est-ce qu'il y a vraiment rien de commun?
Je ne sais pas. Je veux dire, pourquoi il y aurait du commun? Lorsqu'il y a quelque chose de commun, c'est que il y a un groupe de gens qui ont décidé d'emprunter. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça n'est pas ce que vous faites, mais la mauvaise méthode, c'est de parler de l'objet comme s'il se déplaçait tout seul, immanent dans le monde. En fait, il y a des volontés, il y a des politiques. Quand vous avez un transfert culturel, il ne se fait pas par un miracle. Lorsqu'il y a une volonté, on peut aussi refuser, enfin, etc. Il y a des... tout vient d'une volonté humaine. Il peut y avoir des contresens, mais par exemple, lorsque vous avez... je travaille là-dessus actuellement. Lorsque vous voyez une communauté, une cité, etc., qui adopte l'écriture, enfin, une forme d'écriture empruntée à côté, c'est pas parce que elle veut progresser. Voilà. C'est la volonté, et que ça a généralement une raison politique et une raison sociale.
Et ça marche d'ailleurs dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de l'anthropologue James Scott, qui notamment son livre sur la zoomia, ou l'art de ne pas être domestiquée ou gouvernée, et qui raconte des expériences en Asie du Sud-Est d'abandon de l'écriture, c'est-à-dire de peuples qui abandonnent l'écriture pour échapper à la domination et qui parfois même d'ailleurs mangent tous les écrits pour les ingérer, pour être sûr qu'ils ne réapparaîtront pas.
Ça, c'est formidable. Mais si vous voulez, vous n'avez pas besoin de révolte, vous avez des écritures et des langues qui disparaissent parce qu'elles ne sont plus écrites. Enfin, on a ça dans en Italie du Sud, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a aucune nécessité. Il y a des gens qui abandonnent l'écriture, hein, parce qu'en fait, le groupe qui avait instauré l'écriture à son avantage, comme un signe distinctif, est balayé. Hein. Et puis, bon, y a une autre écriture qui vient ou pas d'écriture du tout. Absolument. Hein. Le problème, c'est que dans l'Antiquité, on ne peut pas trouver un lien entre la domination et l'instauration de l'écriture. Ça n'existe pas parce qu'en en fait, elle n'est jamais venue de l'extérieur. C'est un groupe de gens qui décident, qui vont mettre leur langue, qui vont l'écrire, ils créent leur propre alphabet à partir de l'alphabet grec, hein, et ils écrivent leur langue pour des raisons multiples et variables. Mais ça n'est pas imposé de l'extérieur. Donc, il ne peut pas y avoir de révolte contre l'écriture elle-même. Hein. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des résistances. Mais puisque, en fait, s'il y a affirmation identitaire, c'est en écrivant sa propre langue qu'on va affronter, hein, le voisin en disant « Mais moi, je suis tout à fait capable d'écrire absolument... Voilà. » Mais c'est pas... C'est-à-dire, ces phénomènes de domination par la culture, on ne la trouve pas dans l'Antiquité. Bon, c'est un grand débat actuellement, mais apparemment, les recherches les plus contemporaines font qu'on s'aperçoit qu'il y a une sorte de conversion volontaire à des pratiques culturelles qui sont extérieures, enfin, jusqu'à présent.
Donc j'ai encore deux petites questions. Il y en a une qui serait sur, vous m'avez dit à plusieurs reprises depuis qu'on dialogue, depuis ces quelques dernières semaines, c'est ancien quand même, c'est tout ça, j'ai dit des bêtises, il faudrait que je le reprenne. Vous m'avez parlé aussi de votre intérêt pour d'autres cultures que les cultures de l'antiquité gréco-romaine ou latine, notamment des étrusques. Qu'est-ce que vous avez découvert ces dernières années, vers où vous ont mené vos recherches à partir de ce point de départ qu'est l'invention de la littérature?
Alors moi je découvre rien, mais je lis les découvertes des autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs actuellement, hein, qui se posent beaucoup cette question sur la multiplicité des cultures antiques et leur instabilité. Hein. Et on s'aperçoit que... Alors moi, c'est dépassé, c'est-à-dire qu'en fait, l'opposition du livre, de l'oralité, etc., hein, bon, je pense que ça fonctionne pas comme ça. Bon, ça, c'est un problème. Mais si vous voulez, ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, je ne sais plus s'il y a encore quelqu'un qui croit à la civilisation, une civilisation ou à une culture. Plus personne ne croit ça. Vous ne pouvez plus parler de civilisation égyptienne, civilisation phénicienne, etc. En fait, on s'aperçoit que tout est imbriqué. Et si vous voulez, c'est pour ça... à un moment, vous prenez une ville, je ne sais pas... comme par exemple, je prends Pestum, par exemple, ce qu'on appelle Pestum aujourd'hui, en Italie du Sud, ou bien une ville au fin fond de l'Afghanistan, à l'époque hellénistique, et vous apercevez qu'en fait, vous avez des strates imbriquées les unes avec les autres, hein, et que ces strates sont différentes traditions, et que même chaque personne fait des choix, hein, dans ces différentes traditions qui sont réunies, et qu'en fait, et nous on dit il y a une culture, mais non. Et par conséquent, ce serait une erreur de les prendre comme ça. Et on voit que chacun choisit, hein, d'être plus grec, d'être plus persan, plus ça, mais dans tel ou tel moment, aspect de leur vie. Alors évidemment, c'est pas gratuit, c'est pas une fantaisie. Hein. C'est sûrement une affirmation de soi qui peut être une affirmation de prestige ou au contraire de voilà. Mais voilà, c'est là et là, c'est ce que je trouve dans ce que je dis. Je vous dis ça parce que j'ai passé l'été à ça, hein. Et donc et avec tout un problème de comment, quel vocabulaire on va utiliser pour parler de ça. et on s'aperçoit que toutes les catégories du genre métissage, etc., etc., ça ne fonctionne pas. C'est pas ça. Alors, bon, c'est ce terme de transfert culturel qui, pour l'instant, est le moins marqué et qui semble être celui qui est le plus pratique actuellement.
Alors, j'en aurai encore deux questions. Sur ce que vous dites, sur la diversité des cultures et leur transfert et, la possibilité aussi de trouver des points communs sans contact, presque insoupçonnés, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu inquiétant.
Ah mais ça, j'ai pas dit sans contact, au contraire.
Oui, pardon.
Non, mais excusez-moi.
Non, mais ça peut arriver aussi, c'est-à-dire sans contact, c'est-à-dire des points communs sans contact.
Non.
Non, ça arrive pas, ça?
À ce moment-là, c'est catastrophique. Ça voudrait dire qu'on aurait une sorte de nature humaine qui se promènerait. Non. Tant qu'on n'en a pas de preuves, on ne se mouille pas.
D'accord. Non. Alors, il y a un truc un petit peu inquiétant dans votre théorie, c'est la question de l'entropie. L'entropie que je comprends comme la perte de l'énergie et l'homogénéisation. Quand même, on a l'impression, en vous lisant, qu'il y a, dans cette période-là, une marche vers l'entropie, une entropie de plus en plus grande. Est-ce que je vous lis mal et est-ce que c'est pas justement, ça va pas empêcher des transferts culturels si cette homogénéisation et cette perte d'énergie fait qu'il n'y a plus rien d'étranger à échanger?
Oui, je pense que... En fait, je ne serais pas d'accord avec ça. Parce que ce qu'on observe actuellement, c'est... Enfin, et aussi dans l'Antiquité. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait dans les années 90, en disant voilà, il y a une homogénéisation du monde, il y a les mêmes hôtels partout, les mêmes fast-food partout, etc. Ce qui n'est pas très intéressant à dire, parce qu'en fait, des nouvelles pratiques apparaissent, des nouveaux regroupements apparaissent. Et dans l'Antiquité, c'est pareil. Si vous voulez, il y a à la fois une tendance à ce que les linguistes appellent la dialectalisation, ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, de même qu'une langue, si vous n'avez pas une institution pour la fixer, la maintenir, va se diversifier très très vite. Les gens vont avoir des langues qui vont être différentes. Il y a d'ailleurs un exemple, c'est ce qui se passe en Yougoslavie. Depuis que la Yougoslavie n'est plus la Yougoslavie, qu'il y a la Slovénie, etc., etc., chacun découvre. Il a une langue différente, alors qu'avant, le serbo-croate, c'était une seule langue. Maintenant, voilà. Et alors, on vous explique que non seulement c'est des langues différentes, mais qu'on ne comprend même plus le voisin, ce qui est quand même incroyable. Et là, évidemment, il y a tout un discours généalogique. Tout d'un coup, les Slovènes se découvrent une antiquité, une très, très lointaine slovène. Bon, tout ça, évidemment, c'est des constructions. Mais donc, je pense que la diversification, c'est un mouvement... qui a lieu dès que vous n'avez plus de pouvoir centralisateur, et inversement, un pouvoir centralisateur va créer une forme unifiée. Donc en fait, je pense qu'il y a les deux tendances. Bon, et puis, on ne va pas jouer ni les Cassandres ni Madame Soleil, enfin, je veux dire... Bon, j'étais encore jeune.
Ouais, il faut valoriser la négantropie, alors c'est ça,
peut-être.
Ouais. Ouais. Alors, j'attendais que le collectif soit au complet pour le présenter. Donc tous les soirs, on aura avec nous le collectif RERQ. Je suis déjà fatigué. C'est le premier soir à la première demi-heure, qui est un collectif queer, de poésie queer. Je trouvais intéressant de vous faire vous rencontrer pour au moins deux raisons. La première, c'est que vous décrivez des pratiques qui lient l'érotisme et la parole donnée, par ailleurs parce que l'Antiquité a été le lieu d'un réinvestissement très très fort par les théories queer, d'une relecture. Il y a une grande relecture queer aussi de l'Antiquité. Aucun livre comme le vôtre a pu donner lieu, non?
Chacun fait ce qu'il veut avec l'Antiquité, hein.
Ouais. Bon.
Il y a deux démarches différentes. Il y a on réutilise, etc. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut le réutiliser de façon complètement conservatrice. On peut, on n'a pas à être là en disant nous, les historiens, vous avez tort. Et puis il y a une autre chose qui est essayer de retrouver, de se retrouver au plus près de ce qui avait pu exister dans l'Antiquité, ce qui est une toute autre chose.
Okay.
Donc sans illusion sur le fait que lorsqu'on essaye de retrouver, c'est vrai que c'est plus marrant de trouver des choses qui ressemblent à des investissements modernes. Enfin bon.
Donc je présente au public Claire Finch, Etaïne Sver et Camille Cornu qui interviendront dans une vingtaine de minutes. Mais avant, on va parler avec Yankuba Diémé. Et avant de parler avec toi, Yankuba, je voulais te montrer quelque chose. Je suis sûr que ça va te faire plaisir.
Pallone di tre piedi. Devo dire che il terreno non è affatto buono. Chiellini. Tirmento per Cassano. Palla sotto ancora Cassano, il sinistro,
sì!
Gol! Al ventesimo Balotelli, Mario Balotelli, porta il vantaggio l'Italia, incredibile come si è alzato Mario Balotelli, ma splendido l'assist con il sinistro di Antonio Cassano, una coppia che c'è, una coppia che funziona, Cassano, Balotelli. Mantenere anche una certa resistenza, no? Bello per Balotelli,
è buona.
È buonissimo Mario Balotelli, palla sul destro,
e...
statua 2-0 al 36esimo esplode il tipo.
Alors, peut-être tu peux expliquer à tout le monde pourquoi j'ai montré ça, qui n'est pas exactement une expression du queer, par exemple. Hein. Là, bon, tu peux peut-être lire la dernière page de ton livre.
Mon livre, c'est Boy Jola, publié chez Flammarion, et il se finit sur le... En fait, je raconte ce match-là et les buts de Balotelli. Parce que c'est un match que j'ai vu avec mon père à la maison et le roman est fini sur ça justement, sur les doublés de Balotelli. En une mi-temps, il envoie son pays en finale de la compétition grâce à un doublé historique. À la 19e minute, Mario ouvre le score de la tête. À la 36e, il enfonce le clou, avec la manière. Bien servi par Montolivo, Balotelli met Philippe Lahm dans le vent. Il se présente seul face à la cage allemande, puis fusille Emmanuel Neuer d'une lourde frappe sous la barre. Le but est à la hauteur de la rage de Ragazzo. Il retire son maillot, le jette sur la pelouse et exhibe ses muscles contractés. Le but fait le tour du monde, se décline dans toutes les langues. Goal, 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 Allah, Allah, golasso! Les piazzi explosent, le nom du héros est connu dans toute l'Italie. L'enfant terrible vient de propulser son équipe en les finales. Il est hissé au rang du héros national. Balotelli se tient droit comme une statue antique. Il ne sourit pas. Aucune expression sur son visage. Rien ne passe. Tout est en pierre. Là, il est beau, Mario. Ça y est, c'est lui l'empereur de toute l'Italie. On l'acclame à Rome. Il a libéré tout un peuple. À la 70e minute, il est remplacé pour que les 50 000 supporters puissent lui faire une ovation. Les Polonais, présents dans le stade, le remercient d'avoir tourmenté l'ennemi juré. On chante, on scande son nom. On l'encense depuis de Milan à Palerme. C'est l'enfant du pays. Il pose, éternel dans la roche, du haut de ses 21 ans, tel un César. Tutto va bene. Votre roi est noir, qu'à cela ne tienne.
Merci, Yankuba. Alors, on va parler un peu de ce livre, mais on va parler un petit peu de comment aussi ce livre est né. C'est un livre sur lequel tu travailles peut-être depuis 5 ou 6 ans. Qui vient de paraître. Je ne saurais plus dire maintenant, mais j'en ai rencontré les prémices il y a bien longtemps. C'était une seule page envoyée pour candidater au Master de création littéraire de l'Université Paris 8. C'était déjà la volonté d'écrire sur ce père. Est-ce qu'on prononce apéro ou apérave
Apérao. En fait, c'est un mix entre le français père et Angela. Souvent, quand c'est des mots français... On rajoute des W à la fin. On va dire, pour dire mère, on va dire amera, ou pour dire père, on dit apera, ou par exemple.
Donc sur cet apera, c'était déjà ce projet-là. Et qu'est-ce qui a motivé ce projet à ce moment-là, quand tu es candidate au master de création littéraire? Pourquoi tu as cette envie-là?
Il y a plusieurs choses, parce qu'avant de faire le master, j'avais passé un an en Angleterre, à Norwich, et je suivais un programme Erasmus. Et pendant mon année en Angleterre, il y avait un cours sur le creative writing et la biographie. Et pendant près d'un semestre, on étudiait plein d'œuvres avec les enseignants en Angleterre. Et à la fin du semestre, il fallait présenter une œuvre, une biographie. Et comme depuis quelques années, je pensais à écrire l'histoire de mon père, je me suis dit, mais c'est bingo, c'est bien, ça tombe à pic. Et je vais commencer la biographie de mon père que je voulais écrire depuis très longtemps. Donc j'ai commencé en Angleterre. Et quand je suis revenu... Peut-être une semaine avant mon retour en France, il y a une amie qui m'envoie un texto Et elle me dit, ouais, mais il y a un master de création littéraire qui va ouvrir à Paris 8 et tout, est-ce que tu es au courant? Et moi, je n'étais pas au courant. Et donc, j'ai postulé rapidement et j'ai été reçu, heureusement, pas longtemps après.
Oui. Et donc, ben, voilà, maintenant, on en est là. Alors, on travaille un peu sur cette idée de la... C'est Etaïne qui m'a soufflé ça de la toute première fois. C'est la première fois que tu vois ton visage derrière un livre. C'est la première fois que tu vois ton nom sur un livre. Est-ce que c'est ton nom ou c'est, tu le vois comme quelque chose de différent? Qu'est-ce que ça te fait, en tout cas, d'être...
Qu'est-ce que ça me fait, là? Quand le livre, je l'ai eu entre les mains au mois de mai, à peu près, au mois de mai, juin. Mais il est sorti le 28 août, donc il y a à peu près 10 jours. Et qu'est-ce que ça me fait? Ben, je suis là, je suis content. Je suis content, mais honnêtement, au mois de mai, quand j'ai reçu le livre entre les mains, j'ai commencé à flipper, en fait. J'ai fait « Waouh !» ma photo derrière avec mon nom et tout. Et j'avais fait un envoi à ma famille, j'avais fait un envoi à mes frères, à ma sœur, à mon père et tout. Parce que ce livre-là, je l'ai écrit en cachette. C'est un livre sur mon père, mais lui n'était pas au courant que j'écrivais un livre sur lui. Et mes frères n'étaient pas au courant. Donc quand j'ai reçu le livre entre les mains au mois de mai, je me suis dit « Ah mais putain, là, ils vont savoir, là, ça y est. » Il va falloir cacher. Finalement, je leur ai envoyé un livre par la poste et tout le monde m'a appelé pour me féliciter.
Et d'ailleurs, tu peux peut-être expliquer ça parce que c'est un livre qui fait une biographie de ton père, mais c'est une biographie pleine de trous et qui se fait pratiquement de manière clandestine parce que tu l'amènes à la parole un peu difficilement. Comment ça s'est passé? Il y a certains passages, notamment qui sont en italique aussi, où on entend la parole du père. Comment tu as travaillé avec ce père, avec cette existence qui est très riche parce qu'il est assez âgé, ton père. Il était déjà assez âgé. Donc, c'est une existence qui commence dans les années 50 en Casamance, qui se poursuit après à Dakar, qui à Abidjan, qui revient à Dakar, puis qui passe la mer et qui se retrouve à Aulnay-sous-Bois. Comment tu arrives à reconstituer tout ça?
Mais par rapport au trou dans l'histoire, c'est vrai, il y en a parce que, comme je disais, que j'ai écrit ce livre en cachette, mais au début, la première fois quand j'ai voulu écrire ce livre-là, j'avais passé quelques mois en Angleterre et je revenais en France pendant les vacances du mois de mars et je voulais travailler sur mon projet en Angleterre. Donc j'ai posé la question à mon père sur son voyage en bateau, parce que j'avais appris pas longtemps avant qu'il était arrivé en France par bateau. Et moi, ça m'avait étonné. Je me suis dit, comment ça se fait? Nous, on est nés en France, et on se demande même pas comment nos parents ils sont arrivés ici. Moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, et je pensais que mon père était comme tout le monde, et il est là, on se demande pas comment il est arrivé ici. On s'est jamais posé la question. Et ça m'a étonné, donc après, j'ai su qu'il était arrivé en France par bateau, j'ai commencé à lui poser des questions. Mais quand je lui ai posé des questions, je suis arrivé... Comme un journaliste, en fait. Je suis arrivé avec mon bloc-notes et mon stylo, et là, il s'est mis en colère.
Et pourquoi?
Il s'est mis en colère parce qu'il ne voulait pas parler de l'histoire du bateau. En fait, il parle toujours de sa vie, de sa jeunesse au Sénégal avant d'arriver en France, mais le voyage du bateau, c'est un moment douloureux de sa vie, donc il ne voulait pas en parler. Et quand il s'est mis en colère ce jour-là, j'avais déjà 23 ans, hein. Et ça m'a... J'ai flippé quand même. J'ai fait, ah ouais, à 22 ans, on peut encore avoir peur de ses parents. Et ça, je pense même aujourd'hui, hein, qu'on est 30 ou 40 ans, tant qu'on a des parents. En tout cas, nous, chez nous, c'est comme ça. Quand le père, il nous regarde, il n'a pas besoin de parler. On se calme tout de suite. Donc après, j'ai décidé, après ça, une fois qu'il s'est énervé, d'écrire le livre en cachette. C'est-à-dire que je lui parlais, je lui posais des questions sur sa vie au Sénégal, sur le voyage en bateau, sur comment il s'est installé en France, comment il est arrivé, comment ça se passait au village, mais sans lui dire « Papa, j'ai écrit un livre sur toi ». Je lui posais des questions ni vues ni connues, il me répondait, j'ai mémorisé un petit peu dans ma tête tout ce qu'il me disait, et j'allais dans ma chambre et j'écrivais en cachette après tout ce qu'il me racontait, jusqu'à le livre est né maintenant.
Mais par contre, écrire, tu n'avais pas besoin de le faire en cachette, c'était quelque chose que tes frères, ton père, acceptaient et trouvaient ça... Il trouve ça comment?
Non, j'ai toujours écrit, je sais pas, là, dans l'écriture, pour moi, il y a de la pudeur aussi. Hein. Tout, moi, chez moi, on est une grande famille, on est neuf. Moi, je lis beaucoup depuis à peu près l'âge de 15-16 ans. Mais j'ai toujours été considéré dans la famille comme un... Comment dire? Ouais, bon, celui qui lit, quoi. Celui qui écrit et tout. Mais la lecture, en tout cas, la lecture, j'ai toujours aimé ça. Mais l'écriture, c'est autre chose. Parce que quand j'ai commencé à écrire, une fois, je me souviens, j'étais en train de travailler sur un texte sur mon ordinateur et mon frère, il est rentré dans la chambre. Il a regardé un peu, il a dit « Ah ouais, t'as écrit ça et tout ?» Je dis « Ouais, moi j'ai écrit. » Il a dit, ah ouais, tes histoires bizarres, là. Mais j'avais 15-16 ans, j'étais un peu jeune, j'écrivais des histoires avec des mecs qui faisaient de la musculation et tout, ils levaient des gros poids de 120 kilos et tout. Il a trouvé l'histoire bizarre et il m'a dit, ben, plutôt, toi qui aimes, comme t'aimes bien lire et que t'aimes bien écrire, pourquoi t'écris pas l'histoire du daron? Vu que, plutôt que de raconter des histoires sorties de nulle part, ben, écris un livre sur notre père. Mais l'écriture, oui, l'écriture, c'est une question de pudeur. Hein. Même aujourd'hui, si j'écris et que mon frère rentre dans la chambre, ben, je vais fermer les onglets. En fait, la souris, elle est prête, elle est positionnée, comme ça, dès que quelqu'un rentre dans la chambre, je réduis la page. Parce que je vais pas... C'est aussi parce que... C'est pas parce que j'ai pas le droit, c'est parce que les gens, ils me posent des questions après, quand on écrit. Alors, t'en es où? Alors, c'est comment? Alors, je peux lire un petit peu? Alors, ils posent trop de questions. J'ai beaucoup d'amis à moi qui étaient au courant que le livre sortait avant, et que je travaille sur un livre. Et à chaque fois que je les voyais, ils me posaient la question. Alors, ton livre, il en est où et tout? Alors, ça avance? Alors, j'ai hâte? Alors... Et ça met une espèce de pression bizarre et... Alors qu'on a besoin de travailler un peu tranquillement dans son coin, et quand ça sort, ça sortira.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe entre ce moment, parce que comme c'est le Festival de la littérature vivante, on s'intéresse à ces processus de fabrication aussi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, entre le moment où tu quittes le master, tu étais dans la première promotion du master, et le moment où le livre sort, il y a plusieurs années, est-ce que c'est un travail assez, je crois que tu es assez proche d'une éditrice déjà à ce moment-là, c'est un travail assez proche, tu lui fais lire régulièrement ce que tu fais, ou tu attends le dernier moment d'être complètement sûr de...
Non, j'ai après le master en 2015, j'ai laissé mon texte de côté pendant à peu près un an, presque ouais un an et demi. Et ensuite, je l'ai envoyé à une éditrice, Flammarion, qui l'a lu et qui m'a appelé après parce qu'elle voulait travailler avec moi. Mais après le master, j'ai laissé le projet de côté pendant un an et demi, que je voulais d'abord voyager au Sénégal pour retrouver ma famille, les tantes, les frères, les sœurs et les frères de mon père pour finir le livre. Parce que quand on intègre le master, la règle dans le master, c'était en fait à la fin du master, d'avoir un projet fini, d'avoir un texte fini, abouti, publiable, etc. Donc moi, j'avais passé ma soutenance, j'avais dit que oui, c'est terminé, mais je vais aller au Sénégal bientôt pour faire des recherches et écrire. Mais finalement, j'ai attendu un peu longtemps aussi. Parce que le master, c'était des années compliquées aussi. Hein. C'est des belles années et tout. Ça nous a pris beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est l'écriture, quoi. C'est l'écriture. On travaille avec des écrivains, des chercheurs.
C'est des lectures aussi. D'autres
lisent aussi. Ils font des retours sur les textes. Et après, voilà, j'ai pensé un peu à autre chose. Et finalement, j'ai repris mon texte. J'ai retravaillé. Et en 2019, et le texte est là. Hein. Mais le master, j'ai quitté le master en 2015. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai travaillé, j'ai été au chômage pendant longtemps, j'ai... La fin des études, quoi. C'est toujours compliqué quand on a étudié à la fac d'arrêter comme ça, parce qu'après, nous, on a fait un master de création littéraire. Il y en a qui font des études de commerce ou d'ingénieur, alors après, ils trouvent un travail facilement. Mais nous, on était un petit peu... En tout cas, moi, j'étais un petit peu en galère. Et d'ailleurs, beaucoup de mes camarades aussi, je crois qu'ils étaient en galère aussi. D'ailleurs, certains le sont encore aujourd'hui, mais c'est pas grave.
D'ailleurs, dans ta promotion, je sais qu'il y a une ou deux personnes de ta promotion, certains avaient monté le collectif Chômage et Sexualité pour exprimer ce qui a devenu après le master, hein, collectif qui existe toujours. Donc c'est cette partie-là, c'est celle que moi j'ai connue. Il y avait des passages que je connaissais un petit peu, mais enfin qui ont été largement retravaillés, qui est le passage de ce petit voyage initiatique aussi, un voyage de recherche que tu fais à ce moment-là et qui a nourri ton travail ces dernières années.
Ouais. C'est le...
Et je me posais une question, il y a un passage très frappant où ton apéro dit « Je regarde les livres que tu m'as achetés tous les jours, j'ai perdu du temps, maintenant je connais lire, si je savais, je recommençais plus tôt, je lis un livre, il y a tout dedans, ça parle de la neige, des poupées, ça parle de la couleur rouge, des reines, de tout, il y a tout dedans. » C'était quoi les livres que tu lui envoyais? Pourquoi tu lui envoyais des livres alors?
Parce que mon père, il n'a pas été à l'école. Il est arrivé en France, il avait la vingtaine, il a travaillé à l'usine, mais il n'a jamais été à l'école. Mais quand il est arrivé en France, il suivait un peu les cours du soir. Donc il peut lire et écrire un petit peu, il s'y débrouille, on va dire. Et depuis quelques temps, il a commencé la lecture. Hein. Il est à la retraite, il passe ses journées tout seul. Et donc des fois, il me demande de lui prêter quelques livres, parce que j'en ai beaucoup. Et lui, à force de me voir lire, ben, il me demande aussi. Et je lui prête beaucoup de livres. Et il les lit, hein. Et une fois, je me suis demandé vraiment, mais je lui ai demandé, ouais, mais tu comprends ce que tu lis et tout, tu comprends l'histoire, ça parle de quoi et tout. Et il m'a dit, ben, je lis un livre en ce moment, dedans, il y a la couleur rouge, il y a les poupées. En fait, c'est son rapport à la lecture. Moi, je vais lire et je vais raconter une histoire avec une histoire derrière. Mais lui, quand il lit, il va dire « j'ai vu tel mot ». Je vais lui faire lire un livre de Pierre Rabhi. Il va dire « ah oui, ça parle, il y a écologie dedans, il y a nature, il y a paysan, il y a agriculture ». Donc, il connaît un petit peu. Il reconnaît des mots. Mais il ne pourrait pas dire « ça parle de ça ». Et j'ai bien aimé en parler dans le livre de son rapport à la lecture. De dire que c'est pas un livre, pour nous, pour moi, ça peut raconter une histoire, mais pour lui, c'est des mots qu'il reconnaît.
Et une dernière question, est-ce que tu te sens plus auteur depuis que tu as vu ton nom sur cette couverture ou tu te sentais déjà auteur à 14 ou 15 ans quand tu as eu envie d'écrire ?
Non, avant, je voulais devenir footballeur, vous avez vu le maillot ou pas ? Ouais. Je voulais devenir... Non, mais j'ai toujours aimé le foot, moi, mais j'ai... Après, j'ai fait le choix, hein. J'ai des études, parce que quand j'ai eu 15 ans, je suis entré en seconde, et après, j'ai fait un choix entre le foot et l'école, hein. Parce qu'à 15 ans, il y en a, ils pensent aux filles, aux garçons, ils pensent à la SAP, ils pensent à plein de choses. Moi, je pensais au foot, et après, j'ai un peu arrêté pour mes études. Mais comment je me sens ? Je me sens, oui, c'est le premier roman, j'espère qu'il y en aura un deuxième, il y en aura un troisième, et ainsi de suite, on va travailler, hein. On continue à écrire parce qu'on peut toujours faire mieux.
Il paraît que Mario Balotelli se posait la question aussi de la littérature et du foot. Lui, il regrette de ne pas avoir choisi la littérature.
Bon. Ah oui, okay.
Je plaisante. notre temps est... Et enfin, c'est assez, y a plein de choses qui arrivent derrière. Donc, on arrive à notre moment collectif Q. RERQ, mais ce n'est pas possible. Le moment du collectif de RERQ. Je lance un petit PowerPoint et c'est à vous, c'est ça ?
Okay. Alors, j'ai la difficile mission d'assurer la transition. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être pendant qu'on règle les histoires techniques. Il y a des mots qui ont été prononcés, des choses, des expressions comme ça qui m'ont un peu... en tout cas, qui me permettraient peut-être de faire des liens avec ce que nous faisons, nous, au sein du collectif RERQ. Florence Dupont a parlé de plaisir collectif, de transfert culturel. Nous, on va parler plutôt de transport textuel. J'ai relevé aussi la culture chaude de l'événement et je crois qu'on est pleinement dedans avec RERQ et pour c'est des petites choses comme ça, hein. Et pour Yankuba, il y a aussi un lien qui est assez fort, en fait c'est le master, puisque toutes les trois, alors là vous avez que la moitié du collectif, je vais reboucler après sur l'origine, mais c'est vrai que c'est un peu bordélique, mais c'est ma première radio un peu comme ça, donc voilà. Le master, d'où cette invitation aussi, Lionel, merci. Puisqu'en fait, Camille Cornu a fait également le master, Claire Finch aussi. Elles en sont sorties avec beaucoup de réussite. Et moi, je suis en plein dedans, puisque je vais entamer ma deuxième année. Donc c'est vrai qu'on a un peu un pool. Voilà. Après, pour en revenir à RERQ, puisque je vais recommencer par le commencement, en fait, on est un collectif d'autrices, donc autrices avec un X. Nous sommes 6 en réalité. Il y a également Wendy Delorme, que peut-être vous connaissez déjà, autrice. Rebecca Chaillon, qui est performeuse, et il faut aller voir absolument son travail. Et par rapport au foot, elle a fait un spectacle récemment qui s'appelle « Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute », et qui parle de football féminin, donc c'est très intéressant aussi. Je continue à faire des liens. Et Élodie Petit, des éditions Douteuses. Donc en fait, nous sommes 6 autrices, avec cette espèce de commun, c'est exactement ça, où on travaille, on écrit beaucoup en fait, sur la question du désir, du sexe, des sexualités, du genre, d'un point de vue queer, féministe. Enfin, tout le monde se définit très différemment dans la bande, hein. Personne non binaire, trans, queer, gwyn. Ça nous donne un espèce de panel comme ça de sexualité et surtout de diversité en fait, et des corps et des expériences et des écritures. Et c'est exactement ce qu'on recherche en fait, dans ce collectif à 6. Mais je me suis un petit peu... En fait, plutôt que de raconter les choses, on va peut-être juste lire le manifeste. Ça va être beaucoup plus simple et vous allez comprendre très clairement. Ah oui, d'accord. On commence d'abord par un texte de Wendy Delorme que Camille Cornu va nous lire. Wendy n'est pas là, mais elle est avec nous en pensée.
Ok. Alors, ce texte de Wendy s'appelle « C'est par où la sortie ?» Ne jamais demander son chemin aux gens dans les rues de Paris. C'est ce que j'ai conclu après mon arrivée dans la grande capitale en 99. J'avais 20 ans. C'était avant les smartphones et Google Maps. Les gens sont tous convaincus de savoir où il faut aller pour se rendre à votre destination. Mais ils vous perdent avec leur certitude. Demandez votre chemin à trois personnes différentes en 99, les trois vous répondront d'un air très convaincu que c'est par là, et puis à gauche, et puis encore à gauche. Et là, déjà, tu n'es plus bien certaine d'avoir retenu toutes les informations, mais tu hoches la tête de l'air très concerné de celle qui a compris. Car déjà, tu n'en peux plus de cette interaction. Et puis, c'est pas très grave d'avoir pas bien suivi. Tu redemanderas à quelqu'un quand tu auras pris deux fois à gauche et que tu seras perdu. Les gens savent où ils vont, savent où tu dois aller. Suffit de demander. Moi, je préfère les gens qui ne savent pas, qui ouvrent des yeux ronds, qui haussent les épaules, font la moue à l'envers pour se dire que, vraiment, non, ils n'ont pas d'idée. T'as un peu plus de marge, t'es à égalité. Entre perdus, on se comprend. Maintenant, je crois savoir à peu près où je vais. Le nez dans mon smartphone, plus besoin de demander. Le GPS sait tout, enregistre tes trajets, sait où est ma maison. Même quand moi je ne sais plus. CityMapper et Google Earth arrivent à la période du non-binaire. Plus besoin des passants pour définir mon chemin ni savoir qui je suis. Totale autonomie, ma batterie chargée à bloc et ma détermination à changer de chemin. En cas d'incertitude, je m'autorise clairement et le vagabondage. Et toi, tu te demandes, c'est par où la sortie? Comment on quitte ce monde? Comment on s'affranchit? Google, là, ne sait plus. J'aimerais pouvoir te dire, faut prendre deux fois à gauche, puis au carrefour, tu vois, suivre la D126. Mais je ne conduis pas, et les coordonnées de l'autre monde possible ne sont pas uploadées dans CityMapper. Votre destination est hors du périmètre, loin des sentiers battus. Tu vas te perdre, un peu. Les passants te diront « Qu'est-ce que tu fous? Tu vas à contresens, ça se fait pas, c'est dangereux, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça ?» Va falloir t'accrocher. Mais peut-être en chemin, tu feras de vraies rencontres. Des gens qui resteront, qui connaissent la route sans pouvoir l'expliquer. Elle change pour chacune, il n'y a pas d'itinéraire. Il y a des gens qui voudront que tu te perdes en route et que tu disparaisses avec toutes tes semblables et qui te haïront. À l'heure de Google Earth et du gender fucking, il y en a toujours plein qui tiennent à ce que tu suives le tracé rectiligne du bitume fondu par les autres que toi. Mais je connais un lieu où il n'y a pas d'adresse, perdu dans une forêt au beau milieu du Nil. Des sorcières y habitent et savent s'y retrouver. Il faut juste trouver celles qui connaissent le chemin et s'en remettre à elles. Sans carte ni boussole, pouvoir donner la main et venir en ce lieu dont on connaît le nom, non pas comme une contrée, mais comme un état d'être, une pratique et des liens. C'est la sonorité. Wendy Delorme.
Manifest. Manifest. RERQ.
RERQ est un réseau d'autrix alliés autour de textes. Manifeste queer, cru et Q.
RERQ is a network of authors pulled into an enormous hot bear hug through a shared relation to texts and manifestos that are queer, raw and sex.
RERQ écrit, lit, performe, ce qui n'est que trop rarement visible.
RERQ reads and performs whatever is hard to talk about and harder to see.
RERQ explose le genre triste et la syntaxe molle, la police des corps identifiés, identifiables et la littérature officielle.
RERQ explodes sad gender and saggy syntax. The strict fonts of identified bodies and their official literatures.
RERQ serpente entre les mots d'individus qui racontent leurs perturbations non linéaires dans le genre et la sexualité.
RERQ is the movement between a million mouths talking through non-linear disturbances in gender and sexuality.
RERQ est substance désir, poésie suspecte, flemme tantrique, interstice, nuque moite. Expérimentation sale, paysage gouin, image clandestine, tunnel d'amour, fantasme profond comme des arbres.
RERQ is matter, desire, suspect poetry, tantric laziness, wet napes, intersections, experiments, dirty landscapes, dyke photos, underground love tunnels, fantasy that's deeper than ecology.
RERQ est le voyage néon, sans phare, sans fin vers ta sexe, ta corps, ta bouche d'infini.
RERQ is wild, multiple, and united in poetry. Pour terminer, on va avoir une lecture de Étienne Vert.
Alors, comme on était un peu pressé par le temps, on enchaîne un peu des fragments comme ça. C'est un peu pour vous faire écouter aussi. On va être là toute la semaine, donc vous allez avoir l'occasion en fait vraiment d'entendre nos différentes écritures et nos voix. C'est ce qu'on essaye vraiment de porter aussi quand on est à 6 en fait dans ce collectif là, qui est une espèce d'énergie. On parlait de multiplier les langues, c'était un peu aussi notre idée en fait. Et quand on parle de littérature officielle, c'est justement de sortir en fait de cette uniformisation et d'aller chercher en fait des langues et des vocabulaires qui peut-être n'existent pas encore et en tout cas qui nous sient à nous. C'est expérimental, c'est un peu bordélique et c'est du vivant. Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est un petit extrait aussi.
Ça va bien avec Radio Brouhaha.
Ben exactement. C'est un match. Stéphanie a décidé de monter un business. Enfin, Stéphania. C'est son surnom quand sa langue vipère quelqu'un ou qu'il lui vient une idée diabolique comme celle-ci et que son visage ressemble soudain au cliché d'un type de droite accro à Welbeck. Comme dans Plateforme, mais les palmiers en moins, elle veut me vendre. Pas en entier, juste un morceau. Mes pieds. À des fétichistes. Elle dit qu'ils sont légions et pas forcément que dans la Légion étrangère. Une blague, j'ai supposé, et qu'ils sont prêts à payer cher pour posséder une photographie de mes pieds, qu'elle n'a jamais vue nue, soit dit en passant, et que les choses soient claires, Stéphania et moi, on ne couche pas ensemble. On s'est rencontrés il y a 6 mois, mais on n'est pas prêtes, pas encore, à se passer du vernis en tombe sur la plage sous le soleil vénère d'un pays exotique. N'importe quoi. Et surtout, pourquoi des îles ? Quitte à donner de ma personne, je préférais m'abandonner, teasing en pointillé, à la découpe des femmes. Le female gaze, on n'en parle pas assez. Ça me fait penser à Stéphanie, une autre, il y a 15 ans. Elle travaillait dans un bar à hôtesse à Pigalle. On avait une histoire et elle avait aussi un surnom. Mais ça, ça reste entre moi. Stéphanie voulait monter un business, elle aussi. Un business en ligne. Vendre des petites culottes sales à des dykes. Je l'aimais bien et j'aimais beaucoup ses pieds, manucurés, laqués, léchés, comme des miroirs à strip, job à cocktail oblige. Ses pieds et son minuscule bésodrome. On dit un Bézanville, je sais, mais elle le disait comme ça, avec la bouche en haut. Autant d'arguments bien roulés pour dire que j'étais prête à l'épauler dans son affaire, mais le fantasme n'a jamais pris. On a raté l'épreuve du réel, en beauté, cela dit. Il paraît pourtant qu'il y a un Gotha lesbien. Il existe. Billy, qui est sapeuse pompière mais à particules et qui connaît Stéphanie mais pas Stéphanie, m'a raconté en colorama précis, précis. Enfin, aussi précis qu'on peut se le permettre quand on est pris, prise en sandwich dans une sex-party. On ne coupe pas aux mondanités dans ces lieux-là. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre que Stéphanie et moi, on ne vivait pas du beau comté de la rive pour chasser, chaude hypothèse, la future clientèle. Beaucoup moins pour comprendre que les Gwyn sont trop pauvres, doublement pauvres sur le marché des forces de l'ordre en marche qui entendent capitaliser nos désirs et nous dévorer toutes. En tant que femmes, et parce qu'elles sont sorties, avec tambour ou sans trompette, de l'hétérosexualité, payant double le prix de la domination. C'est fatal. C'est mathématique. Forcément. Ça réduit le désir d'achat.
Merci Etaïne, merci Claire, merci Camille. On peut t'applaudir.
Merci Lionel, merci à vous.
Alors, merci à Yankouba et à Diémé et à Florence Dupont. On arrive au terme de cette émission avec un peu de retard. Je suis désolé prendre le programme pour Lucas Sibiril qui va lire très 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 bientôt maintenant, qui est du master du Havre pour son moment de lecture. Juste une précision pour l'émission de demain. Donc nous, on sera là tous les soirs. Enfin, moi, je serai là tous les soirs. Des membres du collectif RERQ seront là. Là, je l'ai dit dans les deux langues et sans me tromper. Seront là tous les soirs. Je ne sais pas qui sera là demain encore. En fait, je le sais, mais je ne l'ai pas en tête. En revanche, malheureusement, Jean-Christophe Normand, l'artiste qui devait être là demain, complètement indépendamment de sa volonté, ne peut pas être là. Donc avec Jean-Max Collard, on vous prépare un petit truc, mais on sera quand même là. Merci et à demain pour une nouvelle Radio Brouhaha. Pardon pour le retard.